Alors bon, on m'a demandé de faire un exposé à des gens qui ne sont pas spécialement familiers de mon domaine. Et bon, ma foi, je vais essayer de le faire. Disons, de vous exposer l'essentiel d'une des lignes de recherche que j'ai suivies à Fribourg avec mes collègues. Alors, bon, pour comprendre ce qu'on a essayé de faire, je crois qu'il faut se replacer dans la situation des années 90. Disons, l'état d'avancement de la linguistique dans ces années-là. D'un côté, vous aviez les syntacticiens qui développaient des modèles formels dans le cadre de la phrase. Et de l'autre côté, vous aviez des pragmaticiens essentiellement qui travaillaient à l'analyse du discours sur des unités de dimension, de grande dimension, disons. Et avec un appareil de notions très différent. Bon, disons, le problème est que ces analyses du discours qui se faisaient à l'époque prenaient comme unité de base des unités qui n'étaient absolument pas mises en rapport avec les unités des syntacticiens. Bon, le modèle de Roulet à Genève est fondé sur la notion d'acte de langage. Beaucoup de travaux de Jean-Michel Adam de l'époque étaient fondés sur la notion de proposition au sens sémanticologique. Et quel rapport avec les phrases que généraient les syntacticiens ? Ben, aucun. Il y a eu une malheureuse victime de cet état de choses, c'est un Genevois, Rubatel, qui s'était chargé de savoir si, quand on dit « je sors malgré la pluie », il y a un acte de langage ou deux. Et il avait été obligé, pour faire coller la syntaxe de Chomsky avec l'analyse en acte, il avait été obligé d'inventer la notion de semi-acte de langage. Enfin voilà, quoi, on était dans une situation avec une faille théorique entre la syntaxe et la pragmatique du discours. Alors bon, cette faille théorique, elle était due, entre autres, au fait que les syntacticiens n'avaient pas de critères empiriques pour définir les unités maximales qu'ils cherchaient à modéliser. Je vous ai donné deux attestations sur l'exemplier de cet état de choses. Bon, dans l'introduction à la grammaire générative de Ruet, en 1967, on trouve la notion de phrase en grammaire générative est tenu pour un terme primitif non défini de la théorie. Autrement dit, bon, les syntacticiens arrivent avec des morceaux de discours en disant « ce sont des phrases » et bon, chaque fois qu'ils sortent une phrase, c'est un postulat. Il n'y a pas de critère de délimitation, de définition de la catégorie. Dans la syntaxe du Garz, donc les chercheurs d'Aix-en-Provence qui ont fondé, on peut dire, la grammaire du français parlé, on retrouve une situation comparable. Je vous ai mis une citation de Claire-Blanche Baveniste. On convient d'appeler noyau l'unité minimale de macrosyntaxe qui permet de former un énoncé autonome. Donc on définit le noyau par rapport à l'énoncé. Mais Claire Blanche savait très bien qu'elle n'a pas de définition de l'énoncé et que, bon, un énoncé, c'est ce qui est constitué d'un noyau et d'autre chose, donc on tourne en rond. Ça illustre le fait que, disons, les syntaxes, quelles qu'elles soient à l'époque, n'ont pas de définition empirique opératoire de leurs objets. Alors évidemment, ça rend très difficile l'articulation de cette syntaxe sur une analyse du discours. Ça mène à des problèmes divers. Bon, par exemple, quand est-ce qu'on a affaire à un énoncé et à deux énoncés ? Sous le chiffre 3, je vous ai mis encore deux phrases de Blanche Baveniste, ça sort du même ouvrage. Bon... disons une séquence commençant par « car », elle la traite comme n'étant pas un énoncé, mais ce qu'à l'époque elle appelait un suffixe, à l'intérieur d'un énoncé plus vaste, tout simplement parce que la présence du car implique qu'il y ait quelque chose qui a été verbalisé avant. Mais pour une séquence commençant par un « et », elle a une analyse inverse. Je vais de la pensée à la phrase et réciproquement, et c'est cela qui est un peu difficile à situer. Elle traite ça comme deux énoncés, et entre les deux morceaux, on a une ligne blanche avec fin d'énoncé. Donc, pourquoi traiter la séquence en car et la séquence en et différemment? On ne sait pas. Il y a là des choix qui relèvent de décisions plus ou moins arbitraires. Alors, le problème se pose évidemment dans des tas d'autres, pour des tas d'autres faits. Évidemment, on ne peut pas se fier à la ponctuation graphique pour résoudre ce genre de problème. En 4, je vous ai mis deux fragments du même livre de Jules Verne. La structure syntaxique est absolument la même, me semble-t-il. On a une construction verbale, et puis ensuite un syntagme nominal, circonstance qui rendait sa capture facile dans le premier cas, circonstance peu rassurante dans le second cas. Vous voyez que c'est ponctué, le premier exemple est ponctué comme une seule phrase, le second est ponctué comme deux phrases, et à mon sens, il n'y a pas de différence de structure syntaxique entre les deux. Donc on ne peut pas se fier sur, s'en remettre à la ponctuation, comme on le fait souvent, pour décider de ce qui est une unité linguistique de ce rang-là ou pas. Alors, même chose avec 5. Est-ce qu'on a affaire, si on fait de la syntaxe, est-ce qu'on va décider qu'on a affaire à une phrase ou deux? C'est pas évident du tout. Vous avez deux constructions verbales. Voyait-il un livre dans les mains du prince héréditaire, il le jetait au feu, avec là une virgule entre les deux chez Voltaire. Et puis, fonde-t-elle des hôpitaux et l'y joint des missions, là, avec un point d'interrogation entre les deux chez Fléchier. Alors, même problème, est-ce qu'on va traiter ça? Généralement, on s'en tire en collant là-dessus parataxe, et ça évite d'avoir à décider exactement à quel type d'unité on a affaire. Voilà, donc c'est devant ce genre de problème qu'on s'est trouvé il y a déjà, bientôt 20 ans. Et on a donc essayé faire des tentatives pour réduire cet hiatus théorique entre la syntaxe et l'analyse du discours. Et ça supposait évidemment qu'on essaye de mettre en place une théorie des unités intégrée, qui soit explicite et qui permette qui soit opératoire empiriquement, c'est-à-dire ce qu'on voulait, c'est disposer de critères empiriques qui permettent, face à une séquence discursive, de dire, là on a tel type d'énoncé, on a tel type d'unité, là on a tel autre type d'unité. Et puis, on s'est, je pense, imposé une condition supplémentaire qui est une condition de bon sens, c'est que cette théorie intégrée des unités, cette syntaxe allant du morphème au discours, on voulait qu'elle soit, qu'elle vaille autant pour l'écrit que pour l'oral. C'est-à-dire, on part du principe qu'il n'y a pas deux grammaires en français, une grammaire de l'écrit, une grammaire de l'oral, mais qu'il n'y a qu'une grammaire, et que c'est simplement les conditions de production différentes à l'écrit et à l'oral qui vont privilégier un certain nombre de structures différentes dans les deux cas. C'est un point sur lequel on partageait les idées de Claire Blanche Baveniste et des gens d'Aix-en-Provence. Ils ont toujours soutenu qu'il n'y avait pas à traiter la grammaire de l'écrit et la grammaire de l'oral de manière différente. Enfin, postuler qu'il y en a deux. Alors, on était devant ce problème. Et on s'est demandé, de quels critères empiriques on dispose pour procéder à une segmentation du flux discursif. Et il y a deux critères qui nous ont paru exploitables. Le premier est un critère prosodique, c'est la présence dans le discours oral, à certains moments, de contours intonatifs que Delattre, le pionnier de l'analyse prosodique, a étiqueté conclusifs, parce qu'on les reconnaît immédiatement comme des signaux de clôture d'une séquence discursive. Alors, le prototype de ces intonations conclusives, c'est une chute de la fréquence de la voix, de la F0 au registre grave, suivie ou non d'une pause plus ou moins marquée. C'est un critère ou un signal plutôt très opératoire. Je suppose que vous avez déjà tous fait l'expérience quand vous regardez le journal télévisé. Les journalistes ont la sale habitude de couper les gens qu'ils interviewent n'importe comment. Et la séquence de l'interviewé ne se termine pas par une intonation de ce genre, on le perçoit très nettement. On perçoit très nettement qu'il a été coupé en cours de route. Alors, donc, ces intonations conclusives, fonctionnant comme des marques de clôture d'une unité de discours, on les a utilisées, on a appelé période les unités délimitées à droite par ces marques-là. C'est pas nous qui avons inventé cet usage, si j'ose dire, c'est Marie-Christine Azaël-Massieu, dans un article sur la prosodie des créoles à l'époque, qui a récupéré, si j'ose dire, le terme de période qui était tombé en désuétude depuis la rhétorique classique pour l'appliquer justement à des unités intégratives du point de vue prosodique. Alors on a réutilisé cette notion de période. Alors bon, dans mes petites transcriptions, là, les symboles F signalent des intonations conclusives de fin de période. F, c'est comme fin. Et puis S, c'est la valeur opposée, c'est suite à venir. C'est des intonations qu'on appelle continuatives ou progrédientes, de non-inachèvement. Voilà, alors je vous ai donné en 5 un exemple de segmentation en période. C'est un interviewé de Bernard Pivot qui dit « J'ai grandi à côté d'un garage et puis j'ai passé mon enfance sur un terrain d'aviation. » Descente à l'infragrave et une pause de 20 centisecondes. Parce que c'était pratique pour mon père de me laisser là tous les jeudis. Deuxième période. Et puis il y avait une petite fille que j'aimais bien, avec qui on allait jouer dans les hangars, c'est une troisième période. Alors bon, les unités délimitées de cette façon-là sont de longueur très variable. Si vous comparez 5 avec 6 et 7, vous en apercevez tout de suite. 6, c'est une interview de Jacques Delors. Vous voyez qu'il fait des périodes très courtes qui peuvent éventuellement se limiter à un mot. Hein? Premièrement, qui accepte d'intervenir militairement en Bosnie? Personne. Deuxièmement, je ne vous lis pas tout, vous avez la ponctuation prosodique, si j'ose dire, qui montre qu'il fragmente énormément son discours. En revanche, Pelt, en 7, sur 3 lignes, lui ne fait qu'une période. On a essayé de mesurer un peu ça. C'est des calculs approximatifs, mais Delors fait en gros 10 périodes par minute. Jacques Sellard, un linguiste, dans une interview, lui en fait 5,5 par minute. Et puis un journaliste sportif en train de commenter un match de foot en direct, lui, il fait 2 périodes par minute. On a choisi des moments on pouvait supposer que le débit était à peu près le même mesurer ça, mais ça montre que la longueur des périodes, c'est une variable phonostylistique avec beaucoup de variations individuelles. Il y a d'autres contours conclusifs que celui que je note F, là. notamment bon, les contours intonatifs de questions avec une montée au suraigu, les exclamatives montantes également, enfin, on les a considérées comme des marqueurs de fin de période. Et donc, ce qui caractérise dans notre esprit ce paradigme des contours conclusifs marquant la fin d'une période, c'est qu'il donne en même temps des indications interactionnelles, c'est-à-dire deux types d'indications, des indications sur l'attitude du locuteur à l'égard de ce qu'il est en train de dire, et puis des indications sur les réactions que le locuteur attend de la locutaire. Bon, on a suivi Marandin, par exemple, pour la description de l'intonation exclamative montante. Bon, il analyse ça comme un signal que le locuteur s'attend de la part de l'autre à une résistance, une révision, en fait, de ce qu'il a dit. Et je crois que c'est une analyse qui convient tout à fait. En fait, ce qu'on appelle exclamatif, ça, c'est un signal du genre « vous n'allez pas me croire, mais je le dis quand même ». Voilà. Alors, les intonations de demande de confirmation, les intonations de question, les intonations d'évidence, ont la même valeur à la fois de marqueur conclusif de période et de marqueur de posture interactionnelle. Alors, une fois identifiées des périodes, c'est bien joli, mais ces unités, quelles sont leurs fonctions ? Une période linguistique, ça sert à quoi ? Je vais vous dire d'abord ce que les périodes ne sont pas. Ce n'est pas des secteurs thématiques. Disons qu'une période ne se définit pas comme un secteur de discours qui concernerait un seul thème ou un seul topic. C'est une hypothèse qui a été faite surtout par des prosodiciens. Elle est très facile à invalider. Si on observe des périodes un peu longues, on s'aperçoit qu'il y a des changements de topic au milieu d'une période. Et puis, inversement, il peut y avoir maintien d'un topic sans marqueur de renouvellement de topicalisation d'une période sur l'autre. Donc, les frontières de période ne coïncident absolument pas avec des secteurs thématiques du discours. Les périodes ne sont pas non plus des unités illocutoires. C'est une hypothèse qui a été faite de diverses parts, notamment par Claude Muller, qui définit une unité correspondant à ce que j'appelle période comme en fait un ensemble d'actilocutoires, mais dont un seul est en quelque sorte l'acte principal, les autres actilocutoires étant mis au service de cet acte principal. C'est une idée qu'on retrouve également chez Emanuela Cresti en Italie. Elle utilise également, pour décrire ces périodes orales, une notion d'unité illocutoire. Et puis c'est une hypothèse qu'on retrouve, mais sous une autre formulation dans le modèle d'Eddie Roulet, qui distingue des complexes actes directeurs, actes subordonnés, et donc qui postule une hiérarchisation des actes de langage dans ce qu'il appelle des interventions. C'est une hypothèse qui me paraît pas possible quand on regarde des périodes listes, je les appelle comme ça, comme 7. 7, c'est une période, narrative, qui est formée d'éléments disons, rappelons-les tout de suite, des clauses, ça viendra après, dont chacune, disons, asserte un fait, mais il ne me paraît pas possible, dans ces périodes listes ou en chapelet, d'établir de relations hiérarchiques. Bon, vous en avez un autre exemple un peu plus bas, hein, 9. On allait à la messe, on emportait le pique-nique, on mangeait sur l'herbe, on rentrait le soir. Là, il me paraît impossible de trouver un acte de langage qui serait principal ou directeur et auquel les autres seraient subordonnés. Alors, autre argument qui me paraît aller contre cette hypothèse, c'est des exemples, disons, c'est la comparaison de 6 et de 8. Bon, en 8, on a des exemples d'une routine bien connue avec une question. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Suivi d'une assertion. J'ai fait appel à un expert. Et la question n'est là, en quelque sorte, que pour préparer l'assertion. Et elle ne, c'est pas une vraie question, évidemment, et elle n'est pertinente que, enfin c'est des questions partielles en l'occurrence, elle n'est pertinente que par son présupposé. C'est-à-dire que quand vous demandez qu'est-ce que j'ai fait, ça présuppose j'ai fait quelque chose, et ça thématise en quelque sorte le quelque chose en question, et après ça vous pouvez le définir, l'identifier, j'ai fait appel à un expert. Et bon, cette routine-là, en 8, elle est exécutée à l'intérieur d'une période. Hein. Bon, c'est quelque chose d'assez fréquent. Bon, si vous revenez à 6, à Jacques Delors, ben lui, il exécute la même routine, mais sur deux périodes. Qui accepte d'intervenir militairement en Bosnie ? Personne. Que nous reste-t-il comme arme ? La diplomatie. Alors, donc... disons, il me semble que on ne peut pas fonctionner avec, disons, identifier la période avec une configuration d'acte de langage qui serait dominée par un acte principal. On retrouve ces configurations à l'intérieur des périodes ou bien chevauchant les frontières de période. Alors, donc, ce qu'une période n'est pas non plus... Ben, c'est une unité de complétude informationnelle, c'est-à-dire on pourrait supposer en fait que quand le locuteur émet un signal conclusif, ben, ça signifie « j'ai fini de dire ce que j'avais à dire ». Mais très souvent, on s'aperçoit qu'à l'issue d'une période, ben, il y a des attentes d'informations qui restent ouvertes. Le plus bel exemple, il est dans Jacques le Fataliste. Hein. Il y a Jacques le Fataliste qui à un moment dit « premièrement », et puis, quatre pages plus loin, il dit « j'ai dit premièrement, ça laisse attendre un deuxièmement, deuxièmement donc », et il continue. Et il y a quatre pages entre les deux. C'est évidemment pas dans la même période. Alors, le premièrement ouvre une attente d'un deuxièmement, mais l'attente sera satisfaite ou saturée bien après la clôture de la période. Donc, une période n'est pas non plus une unité de complétude informationnelle. Alors, qu'est-ce qui reste ? Bah, disons peu de choses. Disons, une période est certainement une unité d'interaction pertinente. C'est-à-dire qu'à la fin d'une période, c'est une place transitionnelle favorable. Et même si évidemment toutes les fins de période ne donnent pas lieu à un passage du tour de parole, c'est quand même à ces endroits-là que le passage du tour de parole est particulièrement convenu, disons. Et puis ça coïncide avec le fait que la fin des périodes est marquée, que les marqueurs de fin de période sont en même temps des marqueurs d'attitude interactionnelle. Et puis l'hypothèse qu'on a été amené à faire, en regardant justement la grande variété phonostylistique des périodes, ben, c'est que les périodes sont des unités ergonomiques. C'est-à-dire que le locuteur finit une période ben, quand il en a marre. Ou plutôt quand il éprouve le besoin de faire une pause et de réinitialiser un certain nombre d'opérations complexes, de processus qu'il est en train d'accomplir. Alors, réinitialiser phonétiquement, par exemple, ce qu'on appelle la ligne de déclinaison. Après une intonation conclusive, on revient au niveau de fréquence de base de la F0, et puis vraisemblablement aussi fermer un certain nombre d'attentes informationnelles définies par des contraintes de pertinence, mais pas toutes. Voilà, j'ai rien de mieux à vous proposer que ces fonctions-là pour la période. Alors, étape suivante, comment analyser, c'est-à-dire décomposer les périodes en constituant, en unités constitutives. Bon, là, on dispose d'un autre critère qui n'est pas nouveau. C'est un critère que les syntacticiens utilisent depuis très longtemps pour définir, quand on leur demande de définir ce que c'est qu'une phrase. Je vous ai mis une citation de Meillet qui le dit. Hein, la phrase peut être définie, un ensemble d'articulations liées entre elles par des rapports grammaticaux et qui, ne dépendant grammaticalement d'aucun autre ensemble, se suffisent à elles-mêmes. Autrement dit, c'est l'idée qu'il y a des unités, bon, Meillet les appelle phrases traditionnellement, il y a des unités qui se définissent par l'existence à l'intérieur d'elles d'un réseau de relations grammaticales, mais qui n'entretiennent aucune relation de même nature avec les unités voisines. Autrement dit, bon, ce que Meillet appelle des phrases, il les définit comme des îlots de connexité grammaticale. Alors, bon, c'est un critère qui est opératoire, pourvu qu'on puisse définir ce qu'on appelle relation grammaticale. Si on veut définir des îlots de dépendance grammaticale, évidemment, il faut pouvoir le faire de façon explicite. Alors, bon, évidemment, c'est un critère opératoire. Si vous reprenez 9, là, bah, ce critère, il vous permet évidemment d'identifier 4 unités successives qui sont toutes construites autour d'un verbe. Hein, c'est des unités sujet-verbe-complément. Et puis, disons que intuitivement, bah, on peut utiliser ce critère pour découper ma période. Alors, comment définir un peu plus précisément les relations que j'ai appelées grammaticales? Bah, d'une part, disons là, résume un siècle ou deux de grammaire, hein, rien de neuf. D'une part, c'est des relations qui s'établissent entre des signes, c'est-à-dire très classiquement des unités à deux faces avec un segment signifiant et puis un contenu signifié. Ce qu'on appelle des morphèmes ou des grands signes, des syntagmes, qui sont des combinaisons de signes à l'intérieur de ce qui fonctionne tout à fait comme une algèbre. Hein. Alors, ces relations entre signes, ben, elles peuvent être décrites comme des restrictions sur les enchaînements de signes possibles. Bon, Chomsky disait des restrictions sur un monoïde de concaténation. Bon, il y a une opération de base qui consiste à mettre des signes bout à bout. Et puis, bon, ben, la grammaire, c'est des restrictions sur cette opération-là. Alors, on peut effectivement décrire ces relations de façon satisfaisante et générale en termes de combinaisons de signes. Bon, pour décrire la syntaxe de l'article en français, il n'y a pas besoin de s'interroger sur les fonctions discursives de l'article. Il suffit de dire que l'article, ben, ça se trouve devant un syntaxe de type nominal. Et puis, on a à peu près épuisé le charme du problème. Disons que ces relations, je vais les appeler dépendances grammaticales, elles peuvent se définir comme des implications d'occurrence entre unités, des relations du genre la présence de l'occurrence de l'unité du signe X implique l'occurrence, la co-occurrence d'une unité Y. Bon, c'est une implication entre segments. on ne peut pas avoir X sans Y. Alors bon, je vous en ai donné un exemple, fabriqué et affligeant de banalité en 10. Ça concerne la relation verbe-complément. Bon, évidemment, si vous prenez une phrase aussi originale que « tu vois bien que le chat mange ses croquettes », vous pouvez enlever le complément « ses croquettes » et puis il vous reste une phrase grammaticale. Si vous enlevez le verbe, ça ne va plus. Et ça montre simplement qu'on a une relation d'application d'occurrence entre le complément et le verbe. La présence du complément implique celle du verbe, mais la présence du verbe n'implique pas celle du complément. Ce que j'ai noté avec ma petite flèche. Alors, en 11, on retrouve la même situation, dans un exemple authentique, là. Mais la plupart du temps, si on avait l'occasion d'allumer le four à pain, on le faisait cuire dans le four à pain. C'est quelqu'un qui décrit comment on faisait les pâtés dans sa campagne. Bon, on a une unité si plus une construction verbale, et puis une protase, comme on dit, et puis une apodose, on le faisait cuire dans le four à pain. Et évidemment, on peut avoir la seconde sans la première, mais pas la première sans la seconde. Bon, si vous avez une protase en si sans l'apodose, tout le monde interprète ça comme une structure incomplète, elliptique, et on va chercher à restituer sémantiquement une apodose. Voilà, donc des relations d'implication d'occurrence qu'on peut établir de façon à peu près fiable en observant ce qui est supprimable ou ce qui n'est pas supprimable dans le discours. Alors ça se double de restrictions, de contraintes de ce qu'on appelle des restrictions catégorielles, des restrictions de sous-catégorisation. Bon, quand vous avez deux unités qui sont dans un rapport de dépendance, comme je vous l'ai montré, elles doivent satisfaire un certain nombre de contraintes de convenance mutuelle. Je vous en ai donné un exemple de nouveau entre le verbe et le complément. Bon, avec un verbe connaître, vous pouvez mettre un complément du type Marie, mais pas un complément du type subordonné en que, hein, je connais qu'elle est sérieuse, ça se dit plus depuis quelques siècles. Alors, je vous ai schématisé en 13 le type de configuration qu'on essaye d'identifier empiriquement. Bon, on peut les formaliser sous la forme d'une grammaire d'opérateur. C'est-à-dire que un opérateur s'applique à un opérande pour produire un résultat, hein, pour construire un résultat. Bon, l'opérande, il peut vivre sa vie tout seul, il peut exister sans qu'on lui applique un opérateur. En revanche, un opérateur ne peut pas avoir d'occurrence sans un opérande auquel il s'applique. Alors donc... voilà, mon petit schéma 13 résume cela. Les pointillés, la double flèche pointillée, figurant des restrictions sélectives entre les deux unités combinées. Alors, bon, j'ajoute que sur ce point, on a eu des divergences assez profondes avec... l'équipe du GARS, du groupe Aixois de recherche en syntaxe, donc d'Aix-en-Provence, sur l'oral. Ils ont travaillé avec une notion de rection strictement lexicale, c'est-à-dire qu'ils utilisent donc, la notion de rection dans le cas de mon exemple 10, la dépendance verbe-complément va être décrite comme une relation de rection, mais dans le cas 11, ils ne sont plus d'accord, il n'y a pas de rection, ils traitent ça comme étant une combinatoire d'un autre ordre que 10. et qu'ils ont pris l'habitude de nommer macro-syntaxe, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent avec un modèle à deux niveaux superposés, enfin plurilinéaires. Il y a un premier niveau de structuration micro-syntaxe qui décrit des relations de rection, mais rection définit comme des propriétés lexicales du verbe, de certains noms, certains adjectifs. Et puis un autre niveau de structuration superposé qui sert à rendre compte des combinaisons du type 11, E6P1, P2. Pour eux, ce n'est pas de la rection, c'est une relation macro-syntaxique du type pré-noyau-noyau. Enfin, c'est comme ça qu'il l'a décrit. Alors moi, il me semble que... il n'y a pas de différence de combinatoire formelle entre 10 et 11, et puis on traite ça comme des dépendances grammaticales de même nature. Alors bon, les unités maximales de cette morphosyntaxe, c'est rien d'autre qu'une morphosyntaxe, à Fribourg on a pris l'habitude de les appeler des clauses, sans aucune allusion à la terminologie anglo-saxonne, mais simplement parce que c'était aussi un terme grammatical qui était inusité en grammaire française, et que étymologiquement, il dit bien ce que ça veut dire, c'est des unités morphosyntaxiques complètes. Alors, je veux souligner que ces unités-là ne coïncident pas du tout avec... ne coïncide pas avec l'image intuitive habituelle qu'on a de la phrase. Je ne donne qu'un exemple, c'est 14A versus 14B. En 14A, bon, vous avez un complément détaché en tête, « Des amours de mon père, je savais tout », qui porte une préposition qui est sélectionnée par le verbe. Hein. C'est savoir quelque chose de quelqu'un. Donc là, on a un indice de connexité grammaticale, de dépendance morphosyntaxique entre les deux morceaux. En revanche, les mois qui suivirent, je m'en souviens comme d'un long apprentissage, bon, on n'a plus du tout ce marqueur de dépendance, hein, il n'a pas dit « des mois qui suivirent, je me souviens ». Bon, tout ce qu'on a, c'est un rapport de type anaphorique entre les deux morceaux. Le « en » reprend, enfin, co-réfère, en gros, avec le premier morceau. Et on a considéré, donc, en l'absence de cet indice de dépendance morphosyntaxique, on avait affaire à deux clauses indépendantes. Donc, le syntagme nominal, on va le décrire comme une clause d'un genre particulier. Une clause qui prédit rien, hein, qui sert juste à poser un objet, à le mettre en évidence sémantiquement sous les yeux de l'interlocuteur. On a eu, disons, on appelait ça des clauses thétiques ou nominatives si vous préférez. Elles ne servent pas à prédiquer quelque chose, mais simplement à montrer un objet de discours à l'interlocuteur. Et bon, évidemment, c'est des outils de topicalisation évidents. Alors, question suivante. Supposer qu'on puisse délimiter sans problème toutes les clauses à l'intérieur d'une période, quelles relations définir entre elles ? Et c'est là que la syntaxe se complique. Péniblement. Bon, on peut se demander, par exemple, enfin c'est par là qu'on est, par là qu'on a abordé le problème, on peut se demander dans quelles conditions on peut énoncer une clause qui contienne un pronom de troisième personne sujet, il. Voilà. Il y a des contraintes qui font que ces clauses, on ne peut pas les énoncer n'importe où à l'intérieur d'une période. Donc, quand est-ce qu'on peut les énoncer ? Alors, bon, si vous regardez 15, j'ai un jeune neveu qui a 16 ou 17 ans, bon, ben, l'alsacien, il ne sait plus. Le « il » est anaphorique, c'est-à-dire qu'il est possible de dire l'alsacien, il ne sait plus, parce qu'auparavant, on a eu une clause qui introduit le référent « j'ai un jeune neveu ». En B, c'est un petit fragment de conversation que j'ai emprunté à Katia Ploeg. L1 raconte comment il a rencontré quelqu'un dans une queue, en faisant la queue. Finalement, on est allé boire un café ensemble, et ça n'arrive pas avec une meuf, hein, ça arrive qu'avec un mec. Et donc, nous voilà partis. Et puis, il est interrompu. « Qu'est-ce que tu veux dire avec ça ?» Et puis, une troisième locutrice dit « Non, mais il fait des parenthèses. » Alors là, le « il », disons, on peut utiliser dans ces conditions-là une clause en « il », parce que le référent du « il » est présent, bien visible dans la situation d'énonciation. Hein. Le « il », c'est « L1 » qu'on a sous les yeux. Emploi déictique classique du « il ». Et puis, donc en « C », début de récit, ça commence là. « J'avais 20 ans quand je me suis marié, il avait le même âge que moi. » Bon, là aussi, on peut utiliser un « il ». Pourquoi ? Bah parce que il est précédé d'une clause qui n'introduit pas explicitement le référent, mais n'importe qui va pouvoir calculer sur le sens de la première clause pour conclure à l'existence d'un conjoint. Bon, c'est une inférence qui n'est pas très coûteuse à faire. Bon, on va tous interpréter le « il » comme le conjoint, je suppose, et pas comme le curé ou comme le maire. Hein. Bon, donc là, il y a une inférence, on est sur des rails, et bon. Voilà. Alors, comment ramener ces différents fonctionnements à l'unité ? Je crois que ce n'est pas possible. Disons, voilà, une clause en « il », c'est une clause qui, en raison de la présence du pronom, implique que dans l'état du savoir partagé par les interlocuteurs, ben, y ait un objet de discours connu des deux, qui soit saillant, qui a été activé, mis en évidence d'une manière ou d'une autre, et puis qui soit porteur d'une dénomination usuelle masculine. Il, c'est, ça, ça présuppose, nous connaissons tous les deux un objet de discours bien évident qui a un nom masculin. C'est tout, ça ne dit rien de plus. Voilà. Alors, si on veut formuler les conditions d'occurrence des clauses en « il », ben, il va falloir formuler une contrainte de ce genre-là, c'est-à-dire il va falloir nécessairement mentionner dans la syntaxe le savoir partagé des interlocuteurs, l'état momentané du savoir partagé des interlocuteurs. Bon, il va falloir une stipulation du genre une clause contenant le pronom « il » ne peut être énoncée que si le savoir partagé par les interlocuteurs contient un objet de discours, qui, que, etc. Voilà, alors, semble que ça mène à la conclusion que pour décrire la combinatoire interne des périodes, ben, il faut nécessairement intégrer une représentation des états successifs du savoir partagé au modèle syntaxique. Savoir partagé, on a pris l'habitude d'appeler ça mémoire discursive. Ça veut dire, n'allez surtout pas mettre une interprétation psychologique ou psychologisante là-dessous. Ce qui est à l'origine de cette appellation, c'est l'idée que le discours a une mémoire, exactement comme un ordinateur a une mémoire. C'est-à-dire que, c'est un stockage des informations qui ont été traitées et on peut, modifier la structure de ces informations à partir de périphériques qui sont justement les clauses énoncées. Voilà. Alors, donc, cette mémoire discursive, il faut l'intégrer dans le modèle. Il faut intégrer ces états successifs dans le modèle. Et puis, quelque chose qui est très important, c'est que, elle ne contient pas seulement des savoirs partagés sur le monde dont on parle, sur l'univers de discours dénoté, mais elle contient également une représentation des différentes opérations langagières accomplies dans le discours. C'est-à-dire il y a en même temps un modèle des actions discursives dans le savoir partagé. J'en ai donné deux exemples en 16, c'est des clauses à pronoms. Hein. Bon, en cet été 2005, quel pronostic émettre pour la rentrée? Bien malin celui qui peut y répondre. Bon, le « i », on l'interprète évidemment comme répondre à la question qui vient d'être posée. Mais la question qui vient d'être posée, ce n'est pas un objet de discours qui a été nommé auparavant, c'est un acte de langage qui a été accompli. Et bon, il a été en quelque sorte réifié dans le savoir partagé, et à partir de ce moment-là, il peut fonctionner comme un référent désignable par un pronom, exactement comme n'importe quel objet de discours. Même chose en B, qui est l'œuvre de ma concierge. Il est interdit de faire la lessive après 22 heures. Vous êtes prié de vous y conformer. Alors, donc, ce que j'appelle mémoire discursive contient au moins autant, c'est peut-être les plus pertinentes, des informations sur le déroulement du discours et de l'interaction que des informations sur les référents mondains dont on parle. Alors bon, la conclusion, c'est évidemment qu'on a la syntaxe de la période, enfin intra-périodique, c'est une syntaxe hétérogène combine d'une part des occurrences de clauses et d'autre part des états du savoir partagé. Je vous ai fait un petit dessin en 17 qui est d'une naïveté totale, mais qui montre comment il faut concevoir la chose. Donc avec deux niveaux, un niveau de la mémoire discursive, les états successifs du savoir partagé, et puis un niveau des clauses énoncées qui fonctionnent comme des opérateurs de transformation du savoir partagé. Disons que on a intégré, enfin c'est une idée que j'ai apprise de Jean-Blaise Grise, le logicien neuchâtelois. C'est que la description du discours doit se faire de manière dynamique. Enfin, lui, il ne parlait pas de mémoire discursive, mais de schématisation. Et bien avant la DRT ou la SDRT, il avait jugé nécessaire de donner une représentation dynamique de l'évolution des contenus au fil du discours. Alors bon, dans ce type de combinatoire, en outre, les clauses ne valent plus en tant que signe, enfin pas seulement en tant que signe, mais elles valent, disons, leur fonction, leur pertinence, c'est d'être des opérateurs de transformation du savoir partagé, c'est-à-dire qu'elles sont pertinentes en tant qu'action communicative, et c'est pour ça que je prends soin de les faire précéder par les symboles et ronds, qui signale qu'on a affaire à l'opération de dénonciation ou de production de la clause, et pas seulement du signe lui-même. Bon, ce n'est pas ce qu'il signifie qui est important, mais c'est le fait qu'il soit performé à cet endroit-là du discours. Alors, on a appelé ce niveau-là pragmasyntaxe. Bon, au départ, on appelait ça macrosyntaxe. Et puis on s'est aperçu qu'à Aix-en-Provence, ils utilisaient le même terme, mais avec un autre sens. Alors finalement, j'y ai renoncé, sauf quand je suis fatigué. Et puis j'essaye plutôt de parler de pragmasyntaxe, puisqu'il s'agit d'une combinatoire d'actes de communication et d'état du savoir partagé. Alors bon, ce qui est important de voir, c'est que dans cette combinatoire, les relations entre les énonciations successives ne sont pas directes. Elles sont toujours médiates et elles passent par l'intermédiaire d'état du savoir partagé. Il n'y a pas de rapport direct entre deux clauses successives dans le discours. Il y a, il y a des relations, mais elles sont médiatisées par l'état intermédiaire du savoir partagé. Ce qui fait que la forme précise des clauses est souvent assez peu pertinente, ou plutôt que des clauses de formes très diverses peuvent assumer la même fonction. Je vous en ai donné un exemple en 18, c'est ce qu'on appelle des pseudo-clivés, hein, c'est des séquences en deux membres. le premier membre nomme ou active un objet de discours non élaboré, c'est-à-dire dont on ne sait pratiquement rien. Et puis le deuxième membre a pour fonction de donner les informations qui permettent d'identifier cet objet de discours. Généralement, c'est un deuxième membre en c'est y. Hein, le modèle, c'est x, c'est y. Bon, alors regardez ce qu'on a en position x. Des syntagmes nominaux complexes, ce qu'elle avait de beau, oui. Des interrogatives indirectes, à quoi on reconnaît le bon esprit de nos petites villes, bon, on peut encore considérer que c'est un type de syntagme nominal particulier, ou bien la raison pourquoi je me marierai jamais, et puis son caractère à Robert, une chose étrange, bon, tout ça, on pourrait à la rigueur dire que c'est des syntagmes nominaux qui identifient, enfin, qui dénotent un objet mal identifié, mais après ça, il y a aussi un problème. Il y a « j'ai un animal préféré », il y a « elle avait cette excuse », et puis j'ai même trouvé dans Madame Bovary une pseudo-clivée comme ça, dont le premier membre est implicite et il faut aller le chercher dans une question qui est posée par un interlocuteur allemand. Bon. Donc ça montre bien, je crois, que la forme exacte des clauses joue là moins de rôle que, bon, on a des paradigmes d'unités qui remplissent la même fonction, mais qui superficiellement peuvent prendre des formes très hétérogènes. Alors, ces unités, ces énonciations de clauses internes aux périodes, quelles relations est-ce qu'elles nouent ? Très rapidement, disons, ça ne va pas très loin, enfin, on peut en identifier deux sur la base de relations au savoir partagé. Bon, il y a des relations comme celles que j'ai essayé de décrire en ce qui concerne avec mes clauses en « il ». C'est des relations de type présuppositionnel, c'est-à-dire que pour être pertinente, une clause doit, implique la présence dans le savoir partagé de certaines informations déjà valides pour les deux interlocuteurs. Alors, ces informations, c'est ce qu'on appelle parfois des présupposés. Et puis, on a deux relations qui peuvent s'établir entre des clauses si la seconde présuppose quelque chose et que la première clause est celle qui a introduit ce quelque chose dans le savoir partagé. Alors, c'est mon petit triangle noir orienté vers la gauche en 19. Lui a été éjecté, ça suppose qu'on connaisse le référent de lui. Et puis, c'est la clause précédente, l'énonciation précédente qu'il rentre. J'avais un pilote, moi aussi, avec moi aussi. Et puis, à l'inverse, il y a des relations de type projectif, c'est-à-dire que l'énonciation d'une clause crée très souvent, là il faudrait pour plus de détails aller voir les travaux de Hauer, donc l'énonciation d'une clause crée très souvent l'attente d'une opération communicative ultérieure. Bon, je vous en donne des exemples en 20-21. Si vous dites une chose est certaine, bon, tout le monde comprendra que vous n'allez pas vous arrêter là. Ça laisse attendre une énonciation suivante qui identifie la chose en question. C'est finalement peut-être, une routine très proche de mes pseudo-clivés de 18. Autre cas du même genre, quoique plus discret, si vous faites une énonciation de clause négative, vous excluez un fait qui est probablement plus ou moins latent dans le savoir partagé, mais ça ouvre l'attente d'une énonciation qui dit ce que vous allez mettre à la place. Et c'est une routine très très fréquente qu'après une énonciation négative, on ait une énonciation positive qui vienne remplacer ce que vous avez éliminé du savoir partagé par ce que vous pensez être bon. Exemple 21, à l'école on n'apprend pas à travailler, ça débouche sur une question, qu'est-ce qu'on y fait ? Et bien tout de suite après, on apprend à rester tranquille. Alors, bon, ces attentes-là, elles dépendent non seulement du contenu des clauses, mais de l'état du savoir partagé dans lequel elles sont produites. Bon, si vous prenez une clause comme « j'ai ma mère », elle peut parfois ouvrir une attente « t'as ta mère, oui, ben quoi, elle fait quoi ?» Et puis dans d'autres cas, ben, elle n'ouvrira pas d'attente. Hein. Si on est en train de discuter, par exemple, de qui garde les petits-enfants, ben, on peut très bien dire « j'ai ma mère » et s'arrêter là, ce sera un apport d'informations pertinent. Maintenant, bon, la plupart du temps, ça arrive dans des séquences du genre « j'ai ma mère, elle est tombée malade » ou « j'ai ma mère, elle vient dimanche », enfin des choses comme ça. Alors, donc, autre relation entre énonciations. Il y a une énonciation qui met en mémoire discursive une attente d'information, et puis une deuxième énonciation qui vient saturer l'attente en question. Alors bon, les relations de type présuppositionnel et d'attente, elles sont cumulables. Je vous ai donné un exemple en 22. C'est quelqu'un qui est en train de raconter qu'est-ce qu'il y a de bien en Aveyron. Et puis il dit, bon, côté industrie, on a ceci, cela, mais pas grand-chose. Et puis, si, il y a une chose importante, la charcuterie. Voilà. Alors évidemment, il y a une chose importante, ça crée une attente quoi ? Et puis, la charcuterie, bah, ça présuppose que, disons, asserter la charcuterie, ça présuppose que ce prédicat s'applique à un objet déjà connu. Alors, bon, l'heure ayant tourné, je vais m'arrêter là. On pourrait continuer très longtemps. Et, bon, en guise de conclusion... Donc je voudrais simplement résumer ce que je viens de dire en disant que si on veut décrire la combinatoire interne aux périodes, bah, il faut prévoir deux ordres de combinatoires distincts que je ne conçois pas comme superposés, mais comme deux articulations du langage différentes. Bon, à l'intérieur des clauses, une combinatoire de relations de dépendance façon Helmsleff. Oui, je ne vous ai peut-être pas dit, mais ces relations d'implication d'occurrence ont été définies il y a très longtemps par Yelmsi. Et puis, donc, autre ordre de combinatoire, c'est à l'intérieur de la période des combinatoires entre énonciation et état de la mémoire discursive. Alors, simplement, tout n'est pas rose, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a énormément de matériaux linguistiques qui fonctionne dans les deux ordres de combinatoire, c'est-à-dire peuvent jouer un rôle dans une construction morphosyntaxique ou jouer un rôle dans une structure périodique. Et c'est le cas notamment de la plupart des mots en QU, bon, ce qu'on appelle classiquement des subordonnants, pratiquement tous, enfin ça a été bien mis en évidence par les gens qui travaillent sur le RAL, ont pratiquement tous en même temps des fonctions de connecteurs renvoyant à une information en mémoire discursive. Vous en avez un exemple dans, dans 5 avec le parce que. Hein, bon, c'est un parce que commence une période. Alors, on ne peut pas le décrire comme un subordonnant dans ces conditions-là. Tout ce qu'on peut faire, c'est de dire, ben voilà, c'est l'expression d'un rapport causal à un fait déjà saillant en mémoire discursive, c'est tout. Alors bon, on pourrait faire la même observation avec « quand » en 23a ou avec les pronoms relatifs en 23b. Hein, il offrit des fleurs à la fille qui le remercia. Une relative au passé simple, comme ça, dans un contexte narratif, bah, c'est une clause autonome, vraisemblablement, et le « qui » n'est pas un subordonnant. Voilà, alors évidemment, ça complique la reconnaissance des frontières de clauses. Et bon, un deuxième problème s'y superpose, c'est l'existence de phénomènes de coalescence et de réanalyse à l'intérieur des périodes. C'est-à-dire qu'il y a des constructions pragmasyntaxiques, donc des structures périodiques, qui qui se ritualisent et puis qui se figent en quelque sorte en construction morphosyntaxique. Il y en a des exemples célèbres en français, c'est les clauses en « il y a » plus une indication de temps, hein, qui peuvent s'analyser, enfin qui ont pu s'analyser tout au moins comme des clauses indépendantes, autonomes, enfin énoncées de façon autonome, et puis qui actuellement sont pratiquement grammaticalisées en complément de temps, au point qu'on peut les cliver, hein. On peut dire « c'est il y a 8 jours qu'il est parti ». Alors, donc, on voit très bien là que une clause en « il y a » a changé de statut, a été réanalysée comme constituant de clause. Même chose en 25, ça c'est un point qui a été étudié par Michaud Béglin, pour les clauses en « importe », qui jusqu'au milieu du 19e siècle fonctionnent comme des clauses indépendantes, autonomes, impersonnelles, avec un verbe impersonnel, et ça se repère très bien au placement de la préposition dans ces clauses-là. 25a, s'il y a des primeurs, tu les achèteras, n'importe à quel prix. Et puis, vous comparez avec 25b, Fillon veut être majoritaire à n'importe quel prix. Là, la préposition a été déplacée et c'est l'indice que ça fonctionne comme un complément à l'intérieur d'une seule clause. Alors, le gros problème sur lequel à peu près tout le monde travaille à l'heure actuelle, c'est de trouver des raisons empiriques de décider, dans certains cas, si telle construction est morphosyntaxique ou pragmasyntaxique. C'est souvent très difficile. Et si vous voulez avoir un bon exemple des problèmes qui se posent, allez voir dans le dernier livre qui vient de sortir de Jeanne-Marie de Bézieux. C'est un recueil d'études sur l'effet de subordination en français parlé, et où justement ce problème est examiné pour différents types de mots en Q, quand, parce que notamment. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je pouvais dire ce soir.
Merci beaucoup.